protestant peut en cacher un autre. Une émission préparée et présentée par Yolande Fourchard-Gounel.
Bonjour à tous, nous recevons aujourd'hui Benjamin Bories, responsable de la plateforme des radios protestantes de la FPF. Alors la FPF, c'est la Fédération protestante de France. Et nous allons lui poser beaucoup de questions sur ce qu'il fait. Et comme il est bloqué là au micro entre Nathalie Bouly et moi, on va en profiter pour le mettre sur la sellette de « Un protestant peut en cacher un autre ». Alors bonjour Benjamin.
Bonjour Yolande.
Ça fait drôle de se retrouver de l'autre côté du micro. Je suppose que vous êtes habitué, un vieux routier du micro.
Un petit peu habitué, c'est vrai, à prendre la parole dans les médias et dans les radios, mais très soulagé surtout parce que d'habitude c'est moi qui pose les questions et qui interviewe. Et là je me sens du coup vraiment bercé et accompagné et j'ai l'impression de ne pas avoir de travail vraiment à faire pour cette émission, c'est génial.
D'accord, mais
et on s'est mis à deux hein, quand même, hein, Benjamin.
Voilà. Ah bah il faut moins ça.
Et il ne faut pas s'endormir. Hein.
Et à trois, puisque nous sommes accompagnés, mais qui n'interviendra pas, par le président de Radio FM+, Christian Malaplate, qui est avec nous pour partager ce moment.
Un vrai comité d'accueil, merci beaucoup.
Voilà. Alors, on est ravis de vous accueillir en tout cas, Benjamin.
Oui, tout d'abord, on va vous poser les habituelles questions indiscrètes de « Un protestant peut en cacher un autre ?» Votre héritage culturel ou cultuel, famille protestante, choix personnel, etc. Alors d'abord, êtes-vous d'une famille protestante ou êtes-vous venu tout seul au protestantisme ?
Alors, ça va être dur de faire court, mais je vais essayer. Grosso modo, ma famille n'est pas protestante et pas croyante, sauf ma grand-mère. Et c'est par la grand-mère que le lien s'est fait avec moi.
Protestante croyante
Protestante croyante, engagée tous les dimanches au culte.
D'accord.
Et d'ailleurs, qui avait fait une démarche personnelle à l'époque, puisqu'elle avait des parents d'origine hollandaise. Et donc, elle était très chagrinée de voir les petites filles de son école aller au catéchisme catholique et elle, de ne pas pouvoir en bénéficier. Et elle a fait, jeune fille, une démarche de catéchisme protestant, alors que ses parents n'étaient plus trop croyants et protestants. Et donc, elle est devenue protestante un peu par choix. Et ensuite, ça n'a pas collé avec ses enfants. Elle les a mis au catéchisme à l'église réformée de Nice. Ça n'a pas collé, ça n'a pas pris. Mais ma mère a quand même voulu me laisser ce choix. Elle s'est dit, c'est bien d'avoir une éducation religieuse. Je ne forcerai pas mes enfants s'ils ne veulent plus, mais je leur proposerai. Avec ma sœur qui est plus grande que moi, ça n'a pas pris. Et moi, je me suis senti très, très bien dans l'église. J'ai découvert en fait un lieu où ma parole, elle avait de l'importance en tant que jeune. On m'écoutait, on me demandait mon avis et on débattait et il y avait de l'amour, il y avait de la fraternité. Donc ça, c'était ma première approche, on va dire, de la spiritualité. C'était des gens avec de l'amour qui m'ont donné et qui m'accueillaient.
Est-ce que dans la religion et dans l'éducation protestante, il y a le même trajectoire ? Moi, j'ai eu une éducation plutôt catholique avec une grand-mère bigote presque. Mmh. Et on avait le droit au catéchisme, quoi, avec vraiment des images. Alors, une approche de la religion extrêmement...
Cours scolaire.
Oui, plus que scolaire, quoi.
Ouais, oui.
Vraiment alors, enfantine, presque.
Moi, je suis d'une génération, donc moi je suis né en 1985, où déjà l'église protestante et l'église réformée avaient évolué sur les techniques d'animation en catéchisme. C'était plus les cours magistraux. Donc on était plus dans des... À l'école biblique, c'était des mini-cultes qui nous faisaient vivre, où on pouvait choisir les textes à lire, c'était assez ludique, et les chants à chanter, et le pasteur était au piano, il nous entraînait, c'était très sympa. Et le catéchisme, c'était aussi dans cet esprit de partage, de dialogue, c'était pas une vérité imposée, c'était des dessins, de l'animation. Et j'ai senti cette différence parce qu'un jour, il y a un ancien pasteur d'une ancienne génération qui est venu remplacer le pasteur pour faire le catéchisme. Alors
c'est
là,
pareil, hein.
C'était le cours comme on avait à l'école, où on notait à toute blinde ce que le pasteur disait. Et il fallait bien tout noter, c'était très magistral. Et alors là, je me suis dit, non, ça ne me va pas du tout. Je veux revenir à l'ancien modèle que j'avais connu, où on nous donne la parole, c'est un peu animé, c'est vivant.
Et après le catéchisme, alors
Ah ben là, j'étais foutu après le catéchisme. j'ai tellement accroché. Ah oui, oui. J'ai trouvé vraiment un lieu de vie. Ma famille, elle n'était pas très rassembleuse. Je n'avais pas vraiment de cousins. Donc ça a été un peu ma famille à moi aussi, l'église réformée à Nice. Et donc, j'ai de suite enchaîné sur, vous savez, un jeune qui est motivé dans une paroisse, dans une église, on lui met de suite le grappin dessus. Donc j'ai fait scoutisme, responsable du groupe local, responsable du groupe de jeunes. J'ai fait des camps de jeunes. Et puis ça a continué bien des années après.
Tout le CV protestant, quoi.
Oui, parce que moi j'ai des filles qui ont fait les scouts laïcs. Oui. Et puis on est partenaire avec la Gerbe à côté, qui est le siège des scouts protestants. Et alors, parce qu'il y a des scouts juifs, il y a tous les mouvements.
Oui, oui, bah oui. Quoi, voilà.
Bien sûr.
Et alors les protestants, je vous le dis, c'était les plus courageux. Parce que c'était les seuls qui quand même... Les scouts laïcs, ils se mettaient dans le camion, ils allaient monter dans les Cévennes, mais ils visaient Montpellier. Non, les scouts protestants, c'était genre la Gerbe, le Montégoal en vélo. Quoi.
En vélo, ouais.
Oui. Il faut...
J'ai subi ce genre de camp en vélo que je serais bien incapable de refaire aujourd'hui.
Allons, avec un peu d'entraînement.
Dans le milieu du scoutisme, et même évidemment les scouts catholiques, mais vous êtes connus, les scouts protestants sont connus pour être les plus courageux en tout cas, et les plus aventureux.
Voilà. Ah bon, bah, je le dirai à mes enfants qui
je ne le savais pas, et c'est l'occasion de citer peut-être les éclaireuses et éclaireurs unionistes de France, qui sont les éclaireurs protestants dans lesquels je me suis inséré, avec une grande ouverture.
Très accueillant, très accueillant. Voilà. Moi, j'ai mon fils qui est venu avec un petit copain qui était musulman, et quand c'était la période de Ramadan, on lui donnait, on s'arrangeait, et puis on s'arrangeait pour les salades, on s'arrangeait...
Oh, Benjamin, juste pour info, ils sont partenaires avec nous, donc, puisqu'ils sont situés à la Gerbe, ils se réunissent à la Gerbe, et comme la Gerbe, qui est une institution à Montpellier, est partenaire de la radio, mais très proche, c'est-à-dire qu'on est tout le temps chez eux, ils sont tout le temps chez
nous. Donc vous avez des émissions où des jeunes scouts s'expriment.
Ça serait bien une idée à monter.
Voilà.
C'est pas encore fait, mais
je vous la donne.
Ça va nous tomber dessus.
Je vous la donne parce que des jeunes autour d'un micro.
Je prends note.
Je sens que ça va me tomber dessus. Alors, dans une église particulière, alors ça devait être l'ERF encore.
Oui. Tout à fait, l'église réformée de France.
D'accord. L'ERF, et puis vous avez bifurqué vers la Fédération protestante de France. Enfin, bifurqué, c'est pas vraiment une bifurcation, c'est une suite logique.
Disons que j'ai fait par intérêt personnel 4 ans d'études en théologie.
Oui, alors, où ça d'abord, à Montpellier, à Aix
Alors à Montpellier, dans la fac de l'Institut protestant de théologie, à Montpellier, 2 ans, et puis à Paris, 2 ans, parce que je voulais un peu changer d'enseignement, et il y avait une petite histoire amoureuse aussi dans le coin, donc ça aide toujours à se déplacer.
Ah oui, voilà. oui, très bien.
Voilà, donc en fait, alors ça causait beaucoup de chagrin à tous les protestants qui m'entouraient, parce que je me sentais pas appelé au ministère pastoral. Et ils voyaient en moi un jeune engagé et motivé, qui n'avait pas l'air trop bête, et il se disait, mais il faut qu'il soit pasteur ce jeune, c'est obligatoire, là on manque de gens. Et moi j'entendais, j'écoutais, alors c'est vrai que je donnais aussi le bâton pour me faire battre, je faisais des cultes, je prêchais, j'animais les groupes de jeunes, donc je me situais beaucoup dans une posture pastorale finalement, mais vraiment non, je ne me sentais pas appelé à vivre une vie de communauté dans les conditions qui ne sont pas, je dirais, les plus idéales pour un pasteur aujourd'hui dans l'Église protestante unie. J'ai beaucoup de critiques à émettre sur...
On aime bien les critiques ici, alors on peut y aller. Si on ne cite pas de nom, on peut dire tout ce qu'on veut.
Oui, alors je vais finir peut-être sur mon parcours jusqu'à la Fédération, puisque c'était votre question. Du coup, je me suis posé la question un peu sérieusement, parce que je suis interpellé par les autres qui me voient pasteur. Je me suis dit, il faut que je me saisisse de cette question, j'y réfléchisse personnellement aussi avec, dans ma prière, avec Dieu, etc., que je discerne, comme on dit. Et vraiment, c'était négatif, la réponse.
Ah bon ?
Je ne me sentais pas appelé, ni par Dieu, ni par moi-même, à être pasteur. Il n'y avait que les autres qui me voyaient dans ce rôle. Et qu'est-ce que j'ai bien fait ?
Et est-ce que ça pourrait venir un jour, à la quarantaine, à la cinquantaine, que tout d'un coup, oui, ce travail-là, en définitive, pour le vivre de près, vous êtes proche des pasteurs quand même, vous dire, peut-être que oui, maintenant, mon temps est venu pour le devenir ?
Plus je suis proche des pasteurs, moins j'ai envie d'être pasteur. Je trouve que les pasteurs vivent une charge de travail et un positionnement extrêmement compliqué, pas que dans l'Église protestante unie, dans le protestantisme en général. On leur demande 1000 choses, ils ont très peu de marge d'action, ils ont aussi un salaire qui est peu élevé. Oui. Pour moi, ça compte aussi dans la vie, ça, je n'ai pas de tabou là-dessus.
J'entendais parler du SMIC qu'ils avaient, le SMIC.
Un pasteur dans l'Église protestante unie, d'après mes derniers chiffres qui datent d'il y a une quinzaine d'années, ça commence à 900 euros par mois, à avec logement.
Oui, alors ils ont logement et ils ont les frais, l'électricité, ils ont bon. Enfin, mais bon. Tout ça, ça disparaît à la retraite. C'est-à-dire qu'un pasteur qui arrive à la retraite, il a toujours le même. Enfin, il a une pension.
Alors
on
lui remet une petite dose de compensation par rapport au logement qu'il n'a plus
à
la retraite.
D'accord, hein,
donc
d'accord.
Ils arrivent à 1500, 1600 peut-être.
Oui. Bon, c'est pas des fortunes compte tenu des études qu'ils ont.
Non, il y a une vraie précarité dans le milieu pastoral.
Mais je le sais parce que je suis dans une famille. Il y a beaucoup de pasteurs, dans tous les sens.
Et puis, je trouve que le cadre, de fonctionnement n'est pas très clair. On dit bien, alors depuis les années 70, où il y a une réflexion sur l'autorité dans l'Église, le pouvoir, etc. On a repositionné le pasteur, non plus comme le chef de l'Église, mais comme un membre parmi d'autres du conseil d'administration qu'on appelle le conseil presbytéral, qui gère les églises, c'est la grande nuance avec le catholicisme.
Oui.
Et du coup, le pasteur se retrouve parfois en infériorité totale sur les décisions qui sont prises dans l'Église. Et la question que ça me pose, c'est quand est-ce qu'on reconnaît le ministère personnel d'un pasteur, ses initiatives personnelles, et comment ça peut rentrer en harmonie avec un conseil qui est important aussi pour équilibrer les pouvoirs et pour accompagner le pasteur et la communauté. Je trouve qu'il y a beaucoup de soucis, beaucoup de conflits entre les pasteurs, les présidents de conseil, les communautés. Et c'est dommage.
Et c'est dommage
parce qu'il y a vraiment beaucoup de belles choses à vivre dans ces églises. Et on a des pasteurs aujourd'hui qui font des burn-out, qu'on doit accompagner, coacher, donc payer des formations pour qu'ils reprennent un peu du poil de la bête. Et ça, on peut dire que c'est une évolution positive de ces dernières années où l'Église protestante unie notamment et d'autres unions d'églises protestantes ont pris la mesure de ce malaise pastoral et ont décidé de mettre un peu des sous pour accompagner les pasteurs en difficulté, voire même accompagner les pasteurs qui veulent se reconvertir en dehors du ministère pastoral. Il y a une politique, notamment de l'Église protestante unie, là-dessus, qui est assez ouverte et courageuse, parce que son but, ce n'est pas de laisser partir des ministres du culte, mais les accompagne en reconversion.
Voilà. Mais j'ai beaucoup entendu ça, des pasteurs qui se plaignaient justement du problème de conflits qui n'étaient pas souvent pris en compte, parce qu'on a tendance à minimiser les conflits ou à les voir quand ils sont trop tard. Et des pasteurs qui sont dans des situations épouvantables, très difficiles, et puis que ça...
Et les pasteurs, par exemple, on parlait du pasteur Michel Fréchet tout à l'heure, qui ont 90 ans, eux n'ont pas vécu ça. C'est quelque chose de nouveau plutôt ?
Sans doute pour des pasteurs qui ont 90 ans aujourd'hui, ils ont connu cette petite révolution.
Une période où ils étaient plus...
Oui. Et puis ils voient ces jeunes pasteurs de 60 ans qui étaient à la manœuvre.
C'est formidable d'être jeune à 60 ans.
Qui trouvent un peu trop baba cool, un peu trop années 70.
Post-68 tard aussi.
C'est ça.
Alors on va continuer la Fédération protestante de France. Donc maintenant, à quel moment et pourquoi Pourquoi vous rejoignez la Fédération protestante de France ?
Dans ma quatrième année d'études, j'étais très embarrassé parce que je savais que je ne voulais pas être pasteur, mais je ne savais pas quoi faire de ma vie.
Ah.
Alors ça m'a bien torturé ça. Et ça, j'en parle volontiers parce que je sais que ça torture pas mal de jeunes aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Et on nous met la pression, on nous demande très tôt ce qu'on doit faire. On doit avoir le parcours clé en main. Et on se perd beaucoup et on fait des années d'études à droite, à gauche, etc. Et j'étais dans ce flou, donc je continuais mon master 1 en théologie, mais avec une demi-motivation. Et c'est là que le réseau protestant a un peu fonctionné pour moi. J'ai toqué à la porte de mon pasteur à Paris et il m'a dit « Tiens, peut-être qu'il y a un poste pour toi qui peut être intéressant à la Fédération protestante ». Je me suis renseigné et puis j'ai été embauché au service télévision. Pour les émissions de France 2 le dimanche matin à 10h. Donc au début, réflexion théologique, assistant de production, et puis après, un peu plus en responsabilité.
Comment s'appelle déjà l'émission ? J'ai vu ça.
Présence protestante. Présence protestante tous les dimanches matin de 10h à 10h30
je la
sur France 2.
C'est bien.
Ça fait plaisir.
Et je la trouve de qualité, pour tout vous dire. Tout le monde s'en fout, mais que je la trouve de qualité, c'est bien.
On peut rendre hommage à son producteur, Christophe Zimmerlin, salarié de la Fédération.
Vous lui direz qu'à Montpellier,
Et la radio.
Il est écouté.
Et la radio, alors, parce que maintenant, donc, c'est la radio et c'est la plateforme des radios protestantes de la Fédération protestante de France. Il faut peut-être rappeler rapidement pour ceux qui nous écoutent, qui ne connaissent pas, alors qu'ils se disent, mais on nous parle de l'EPUDF, on nous parle de la Fédération protestante de France, on ne s'y retrouve plus là-dedans.
Ouais.
Donc, peut-être rappeler assez rapidement ce que c'est que la Fédération protestante de France.
On va faire ça, c'est vrai que même les protestants ne savent pas vraiment ce qu'est la Fédération protestante de France. Donc le protestantisme en France, il est très morcelé. On parle d'une constellation. C'est-à-dire qu'en protestantisme, il n'y a pas un pouvoir central comme en catholicisme, où il y a un pape, où il y a une hiérarchie, une organisation d'église. Mais il y a une liberté, tout simplement. Donc chacun peut créer sa propre chapelle. Et dans l'histoire, dès qu'il y avait une église qui n'était pas trop d'accord et qui se divisait, ça créait deux églises, voire quatre, voire plus, avec le temps qui passe. Donc la Fédération protestante de France, elle répond aux besoins d'abord des pouvoirs publics de communiquer avec un responsable protestant et pas mille intermédiaires. Et c'est pour ça aussi que ça a été créé en 1905, au lendemain de la loi de séparation de l'Église et de l'État, pour avoir un interlocuteur unique et qui peut faire avancer les dossiers.
C'est d'ailleurs la Fédération protestante de France qui prend la parole pour tous les sujets de société, et non pas l'EPUDF ou l'Église réformée.
Voilà, donc l'Église protestante unie de France, qui représente les luthéraux réformés en France dite de l'intérieur, c'est-à-dire hors Alsace.
Voilà, parce qu'il y a encore aussi le problème de l'Alsace, mais bon.
Les luthériens et les réformés d'Alsace, donc ça fait à peu près deux tiers des membres de la fédération. Un tiers des membres restants au niveau des églises, ce sont des évangéliques assez morcelés, donc à 25-30 unions d'églises à peu près. Et puis après, dans nos membres, il y a aussi plus de 80 œuvres et mouvements, dont la Fédération d'entraide protestante qui compte des centaines de membres. Et ça, je le dis, ça paraît simple, mais en fait, c'est très compliqué de réunir tout ce beau monde protestant. Et ça n'existe pas dans tous les pays. Il y a des pays dans lesquels les protestants s'envoient des invectives plutôt que cherchent à travailler ensemble. Nous, c'était une obligation de l'État. Ils nous ont dit, par exemple, on va vous donner des places d'aumônerie, puisque c'est dans la loi.
C'est ça, voilà. Les aumôniers dépendent de la Fédération protestante, ils ne dépendent pas des églises.
Non, ils sont rattachés à une église membre de la Fédération ou pas, puisqu'on prend aussi des églises hors membres de la Fédération. On se met au service vraiment du protestantisme. On les forme, on les accompagne, on discerne pour savoir si c'est de bons candidats pour être aumôniers en prison, en hôpital, en aéroport ou dans l'armée. Dans tous les lieux fermés où la liberté de culte doit être garantie par l'État malgré tout. Donc il y a cette proposition d'aumônerie gérée par la Fédération protestante de France, effectivement. Et ça, c'est un beau service rendu à tous les protestants.
Et c'est un très beau service, l'aumônerie, notamment parce que il y a des gens qui sont un peu hésitants par rapport au mouvement évangélique, qui ont peur des réformés. Et alors, qui sont en contact par l'aumônerie et qui travaillent avec des pasteurs évangélique parce qu'il y a beaucoup de responsables d'aumônerie qui sont dans les églises évangéliques et qui disent on s'entend très bien, on collabore très bien et finalement c'est par l'action qu'on arrive à se comprendre. Enfin, c'est l'impression que j'ai.
C'est un des drames du protestantisme, c'est qu'on a des préjugés les uns sur les autres, au sein même de nos sensibilités, de nos différentes dénominations.
C'est pas que le protestantisme.
C'est vrai, on est bien fort pour ça.
Quand même. On est très très fort.
On est très fort pour ça, donc on travaille beaucoup à la fédération sur la question du lien fédératif, c'est-à-dire de l'unité du protestantisme, se reconnaître les uns les autres dans ces différences. Et c'est vrai que comment passer au-delà des préjugés, c'est par l'action.
Oui.
Et dans l'action, on s'aperçoit que les préjugés tombent parce que quand on s'occupe d'une personne qui est en train de mourir à l'hôpital et qu'on doit gérer ça avec un collègue évangélique et un collègue réformé, là on est sur des questions de vie et de mort, sur des questions existentielles. Il n'y a plus de nuances et de détails sur ce qu'on pense et ce qu'on croit.
Oui, parce que quand on est dans dans la réflexion théorique, c'est là que les problèmes se posent.
Oui.
Pour citer le cas d'une famille protestante que je connais bien du 19e siècle, il y avait quatre fils. les quatre fils étaient tous pasteurs et ils étaient tous dans des unions d'églises différentes.
Voilà, les repas de famille étaient sympas.
C'est ça, voilà, les repas de famille, ça se terminait, qu'ils jetaient leurs serviettes et que les femmes en avaient marre parce qu'elles avaient préparé, puis que personne ne mangeait, puis que tout le monde s'engueulait.
Ouais.
Donc, bon, ils se sont quand même tous retrouvés à la Fédération protestante.
Voilà.
Voilà, parce que c'est un lieu justement de partage et où on se rend compte que les questions théologiques... Parce que dans le protestantisme, on aime bien couper les cheveux en quatre, ça serait un minimum. Sur des questions théologiques qui n'intéressent finalement pas grand monde. Voilà.
Oui, et puis qui ne sont pas toujours reliées au concret.
C'est ça.
Parce qu'on s'aperçoit que dans le concret, il y a beaucoup de questions théologiques qui sont rattrapées par la réalité, en fait. Et qu'on fait comme on peut avec ce qu'on a. Et les grandes réflexions empiriques, théologiques, ou qui posent plein de problèmes et plein de débats, bah ça, c'est les gens qui réfléchissent dans une salle autour d'une table. Mais dès qu'on est aux prises avec la réalité, avec ce monde qui souffre, qui a besoin d'aide, qui a besoin d'espérance, là, de suite, les différences théologiques s'effacent un peu. Et...
Disons qu'on en a besoin de ces gens qui réfléchissent justement pour poser des cadres aux réflexions intellectuelles. Mais il faut savoir que... Bah, comme vous disiez, face à un mourant ou face à quelqu'un qui est en prison, les discussions théologiques, les gens attendent autre chose, ils attendent d'avoir une vraie présence, qu'on leur amène l'idée de Dieu ou Dieu, et puis voilà.
Déjà juste de la présence et de l'amour. Hein.
Oui, oui.
On va marquer une pause un peu éloignée de la présence de l'amour, mais vous nous direz pourquoi. C'est Benjamin qui a choisi pour nous NTM et il va réécouter le texte et il le commente après. À tout de suite.
À l'aube de l'an 2000, pour les jeunes, c'est plus le même deal. Pour celui qui traîne comme pour celui qui file tout droit. De toute façon, y'a plus de boulot. La boucle est bouclée, le système à la tête sous l'eau. Et les jeunes sont saoulés, salis sous le silence. Seule issue, la rue, même quand elle est en sang, c'est pas un souci. Pour ceux qui s'y sont préparés, si ça se peut, certains d'entre eux même s'en sortiront mieux. Mais pour les autres, c'est clair, ça sera pas facile. Faut pas se voiler la facile, il suffit pas de vendre des kills. Faut tenir le terrain, pour le lendemain s'assurer que les siens aient bien. Éviter les coups de surin, afin de garder son puits intact. Son équipe compacte, soudée, écoute de scanner pour garder le contact. Ou décider de bouger, éviter les zones rouges. Surtout, jamais prendre de congés. C'est ça que tu veux pour ton fils, c'est comme ça que tu veux qu'il grandisse. J'ai pas de conseils à donner, mais si tu veux pas qu'il glisse, regarde-le, quand il te parle, écoute-le. Ne laisse pas chercher ailleurs l'amour qu'il devrait y avoir dans tes yeux. Laisse pas traîner ton fils, laisse pas traîner ton fils. Si tu veux pas qu'il glisse. Jamais demandé à t'avoir, c'est avec ces formules trop saoulées. Enfin, faut croire que mon père a contribué à me lier avec la rue. J'ai eu l'illusion de trouver mieux, j'ai vu. C'est qu'un gamin de 14 ans avec le décalage de l'âge. Pour entrevoir, c'était comme un mirage. Plus d'interdits, juste avoir les dents assez longues pour croire que la vie profitait de tout ce qui tombe. La rue a su me prendre car elle me faisait confiance. Jusqu'ici, avec mon père, était comme de la nuisance. L'un d'entre nous n'a voulu recoller les morceaux. Toute tentative nous montrait qu'on avait vraiment trop d'ego. Mon père n'était pas chanteur, il aimait les sales rengaines. Surtout celles qui vous tapent comme un grand coup de surin en pleine poitrine. Croyant la jouer fine, il ne voulait pas, ne cherchait même pas à ranger ce putain d'orgueil qui trancha les liens familiaux. Chaque jour un peu plus, j'avais pas l'impression d'être plus coté qu'une caisse à larguer. Donc j'ai dû renoncer, trouver mes propres complices, mes partenaires d'église. Désolé si je m'émisse. Mais laisse pas traîner ton fils. Laisse pas traîner ton fils. Laisse pas traîner ton fils. On veut pas qu'il glisse. Que voulais-tu que ton fils apprenne dans la rue? Quelle vertu croyais-tu qu'on y enseigne? Que t'as pas vraiment ça pu l'or. Mais comment ça sent la mort? Quand tu respires ça mec t'es comme mort-né. Tu finis borné à force de tourner. Ton cerveau te fait des faux, fait des bons. Et c'est vraiment pas bon quand t'en perds le contrôle. Quand pour les yeux des autres tu joues de mieux en mieux ton rôle. Ton rôle de Kaira te pour le pas. Quand te dise voilà tu fais plus partie de la MIFA d'en bas. C'est dingue mais c'est comme ça. Sache qu'ici va plus qu'ailleurs. La survie est un combat. de combat, de coups, de combat, d'esquive, de super. Ce putain de ce combat, laisse pas traîner ton fils. Si tu veux pas qu'il glisse, qu'il te ramène du vice. Non, laisse pas traîner ton fils. Laisse pas traîner ton fils. Laisse pas traîner ton fils. Si tu veux pas qu'il glisse.
Cette chanson qui nous
laisse
change.
Pas, laisse pas traîner, excuse-moi, je t'interromps Yolande, mais j'ai écouté la phrase hein, qui est hyper importante et j'aimerais vous entendre dessus. C'est ça, c'est... Laisse pas traîner ton fils si tu veux pas qu'il glisse.
Ouais, qui te ramène du vice.
Et qui te ramène du vice, ça fait réfléchir quand même cette phrase.
Oui, ça fait réfléchir. Moi j'aime bien cette chanson parce que ce groupe NTM, il a été décrié dans les années 90 parce qu'il y a une insulte derrière cet acronyme qui était de la pure provocation hein, de la part de jeunes de quartier qui avaient des difficultés. Et là, dans cette chanson, ils osent sortir un petit peu de leur rôle de gangster, de c'est moi qui contrôle le mieux la rue, c'est moi qui suis le plus fort, le plus beau, qui ai le plus d'argent, qui n'était pas trop d'ailleurs dans l'idée des débuts du rap. C'est venu un peu après, c'était plutôt le rap américain. Et là, ils osent parler de leur vie personnelle et de leurs difficultés. Et ils osent interpeller les parents, laisse pas traîner ton fils. Regarde-le, écoute-le, le laisse pas chercher ailleurs l'amour qu'il devait y avoir dans tes yeux.
Et alors, ce qui est formidable, pour rebondir sur ce que vous dites, c'est que je ne sais pas si vous connaissez bien l'activité de la Margelle ici, et l'implantation.
Un peu.
Donc, le temple de la Margelle est situé à 100 mètres du quartier Saint-Paul à la Paillade, qui est le quartier dont vous entendez parler aux infos. C'est là où il n'y a pas encore eu longtemps, il y a eu des coups de Kalachnikov. Donc, vraiment, à... je vous dis, mais 50 mètres du lieu le plus difficile de la Paillade, hein, puisque les lieux difficiles, moi j'ai partagé une semaine avec eux là-bas, bon déjà saluer le travail de Claudia Edeman,
pasteur de cette église,
d'André Chapelle qui est le directeur, vraiment, et alors là ils s'installent le mardi après-midi, mettent des tables, et moi j'ai passé une après-midi avec des dames toutes maghrébines qui venaient avec leurs mômes et qui étaient vraiment dans l'espace tomber de ton fils si tu veux pas qu'il glisse. Et ces échanges intercommunautaires sont vraiment formidables. Donc vous savez pas à quel point vous me faites plaisir en choisissant cette chanson, en sortant d'une semaine à la Margelle, qui est vraiment exemplaire dans son travail de proximité et d'échange. Il n'y a pas longtemps, il y a eu des lectures fraternelles qui ont été faites là-bas. C'est vraiment un travail de fond dans ces quartiers prioritaires. Et on n'imagine pas que l'Église protestante ait une telle volonté d'être visible dans ces quartiers-là.
Ça ressemble au travail de la Fédération protestante, qui est une très grande ouverture. Justement, en écoutant cette musique, je me disais, ça faisait peut-être un peu la différence avec les églises qui vont plutôt proposer du bac, qui est très bien, hein, bac, j'ai rien contre. Mais là, on a quelqu'un de la Fédération protestante et il y a autre chose. Et je crois qu'on a besoin d'entendre cette ouverture parce que la Fédération protestante, c'est les églises, vous l'avez dit, luthéro-réformées, et puis aussi c'est d'autres courants. Oui. On en parlera, mais là, on va parler de la plateforme, donc de ces radios protestantes donc, dont nous sommes ici, mais où il y a aussi beaucoup d'autres courants. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les physionomies de ces radios ?
Eh bien, donc voilà, la Fédération a eu à cœur, il y a une quinzaine d'années, d'accompagner le souhait de ces radios protestantes réparties dans toute la France, qu'on peut dénombrer autour de 20 à peu près radios engagées et actives, qui ont voulu se retrouver et faire réseau, en fait. S'échanger des programmes, s'échanger des bonnes pratiques, se soutenir mutuellement aussi, fraternellement. Et la Fédération a trouvé que ça rentrait bien dans son objectif de rassembleur. Hein. Et donc, la plateforme protestante des radios, c'est le nom de ce réseau, dont je suis le coordinateur pour la Fédération protestante. Et on fait des actions de radio ensemble, des plateaux dans des événements protestants ou non protestants. On fait des émissions, on coproduit, chaque radio produit une émission sur un même concept. Et après, chacune radio diffuse. Et puis on se donne des conseils, c'est un réseau humain, un réseau de vie, un réseau de relations aussi, puisque ces radios protestantes associatives, elles sont parfois isolées. Elles sont parfois, comme beaucoup de radios associatives aussi, dans des petites difficultés passagères de trésorerie, de gouvernance, etc. Donc il est très important que chaque radio puisse sortir de son isolement pour parler avec d'autres radios, aussi sur le plan protestant, même si on s'aperçoit qu'on partage aussi beaucoup d'autres problématiques qui n'ont rien à voir avec la religion et le protestantisme, qui sont des dossiers administratifs,
sociétales, de société. Mais il n'y a pas de querelle doctrinale parce que...
Ah non ? Alors ça, alors, c'était une surprise.
Voilà, pourquoi ? Est-ce que vous avez l'impression qu'on évite les discussions gênantes pour ne pas avoir des conflits ? Ou alors est-ce que les querelles doctrinales passent au second plan, selon vous ?
Moi, j'ai une théorie, c'est qu'on s'engueule quand on s'ennuie.
Ah, c'est une bonne théorie.
Et, ouais, et là, ce réseau des radios protestantes, en fait, il est là pour travailler, pour être dans l'action.
Ouais.
Donc on n'a pas le temps de s'engueuler. En fait, on n'a pas le temps de se poser des questions superflues.
J'ai noté.
Oui, oui. Mais alors, c'est mon analyse.
Non, mais très bonne analyse.
C'est une vraie découverte.
Vous avez fait de la philo, de la psycho, pour avoir des idées comme ça. Il faudrait nous en donner d'autres parce que.
Ouais, j'ai fait de la théologie.
Ah,
ça mène
voilà,
à tout, la théologie.
Comme quoi, la théologie. Oui, alors, donc, les actions, vous êtes ouvert sur tous les débats donc, de société vous collaborez donc.
C'est les radios en fait qui sont autonomes dans ce réseau. C'est aussi une particularité. C'est avec le soutien de la fédération, mais pas sous l'autorité de la Fédération protestante de France. Chaque radio est libre et ce réseau est indépendant et autonome. Donc à chaque fois, les membres présents autour de la table en délégation de leur radio décident et prennent acte de certains projets, se lancent dans des projets. Parfois c'est des petits groupes, parfois c'est tout le monde. Il y a aussi une grande liberté puisqu'il y a des sensibilités très différentes entre les radios.
Et est-ce que vous avez dû est-ce que vous avez dû gérer ce qu'on est en train de gérer là, c'est-à-dire par exemple FM+,
oui.
Géré pendant des années par le pasteur Sens, repris par le pasteur Esbanti, et puis repris quand même par Guylaine Dubois, qui faisait partie du milieu protestant, et puis en 2022, plus. Donc, est-ce qu'il n'y a que nous qui avons vécu ça ou est-ce qu'il y a d'autres radios qui, tout simplement par gestion successive, oui, se sont éloignées du monde protestant ?
Oui, il y a des fréquences qui ont été perdues comme ça dans l'histoire. Oui, et c'est aussi pour ça que la Fédération a à cœur de maintenir ce lien. C'est aussi pour qu'on garde ces fréquences qui sont des lieux à la fois d'expression du protestantisme, mais d'expression de culture, d'expression interreligieuse, d'expression au niveau local, qui fait du lien entre les gens. Et ça, c'est l'identité première des radios associatives, avant même d'avoir une spécificité religieuse ou militante ou une couleur particulière. Donc voilà, tout ce
vous
beau monde...
Vous sentez que c'est une priorité, enfin vraiment un besoin pour la Fédération de maintenir cette plateforme?
Ah oui.
Oui, vous le sentez ça?
Ah oui, la radio, pour moi, est toujours pertinente aujourd'hui, même si elle est en mutation, même si on a les podcasts natifs qui montent un petit peu en puissance, la radio filmée, etc. Quand même, la radio pure est encore écoutée aujourd'hui. Il y a une petite baisse, mais assez légère. Les gens sont attachés, surtout à la radio de proximité. Et ils aiment beaucoup dans la radio de proximité le côté très chaleureux et simple en fait. C'est des monsieur et madame tout le monde qui prennent le micro, qui donnent la parole à monsieur et madame tout le monde. Et là, il se passe des choses authentiques, véritables, qui rejoignent les personnes dans leur vie. Et c'est surtout ça qui fonde l'identité de ces radios protestantes. Après, il y a une autre identité qui est importante, c'est celle de partager cette espérance chrétienne et ses convictions chrétiennes, mais qui s'exprime de manière parfois très différente entre toutes ces radios, sans parler du fait qu'il y a des radios 100% musicales, des radios un peu plus de discussion et d'échange. Peut-être vous êtes entre les deux ici à FM+.
On a des émissions musicales, on a même, je profite pour les citer, Astrid Quab qui nous fait une magnifique émission d'une heure sur des chants qui sont plus évangéliques à mon avis. Tu écouteras l'émission Yolande, mais c'est que des musiques religieuses. Et...
C'est peut-être l'occasion de...
Non ? Ah bah il y a notre Stéphane. Oui, 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 bien sûr, c'est du rap, oui, oui, mais je ne sais pas si c'est plus évangélique. Parce que, alors moi, j'ai une vision un peu bête là-dessus. Heureusement que vous m'aidez, Benjamin, parce que moi, les évangéliques, alors évangélique, moi, évangéliste, ça devient les dingues aux États-Unis ou au Brésil,
les trumpistes.
Voilà. Ben, ça, si je le fais court.
C'est le cliché, c'est là où on en est la société française aujourd'hui dans son regard sur les évangéliques.
Voilà.
Et même parfois au sein du protestantisme, on les classe.
Les idées préconçues. là-dessus, voilà. Bah, j'étais
là, on
dedans.
Est en plein dans le préjugé. On met tous les protestants français qui n'ont rien à voir et qui, d'ailleurs, les évangéliques français se prennent très fermement leur distance avec ce mélange politique qu'il y a aux États-Unis et ce soutien très fort à Trump, qui n'est pas d'ailleurs global aux États-Unis aussi.
Oui, pas aussi fort qu'on le dit.
Non, c'est une partie des évangéliques aux États-Unis. Il y a toute une partie d'évangéliques qui ne veulent pas rentrer en politique, qui ne veulent pas toucher à ça ou qui sont plutôt démocrates. Bref, la réalité est toujours plus nuancée que les idées qu'on s'en fait. Et en France, aujourd'hui, je dirais que c'est même la réalité évangélique d'un côté et luthéro-réformé de l'autre qui n'est plus trop pertinente aujourd'hui.
Voilà.
Puisqu'on trouve des gens de sensibilité évangélique dans des courants luthéro-réformés, des gens très différents aussi parmi les évangéliques. Et ce qui vient surtout nous titiller en ce moment, c'est l'arrivée de plus en plus forte des personnes issues d'Afrique et d'autres pays qui viennent faire revivre un peu nos églises et créer des églises.
Et ça bouleverse les clichés, justement, luthéro-réformés et évangéliques.
Avant, on disait les luthéro-réformés sont en perte de vitesse, les évangéliques en croissance. Maintenant, on est tous plus ou moins en perte de vitesse.
Oui.
Et la grosse croissance, c'est ces églises issues de la migration.
Ouais.
Et ça touche même les catholiques. Hein, parce que,
bien sûr.
Même dans les campagnes, maintenant, ce sont des prêtres noirs. Hein,
voilà.
Beaucoup,
hein. À la différence des catholiques, c'est qu'en protestantisme, on peut créer une église en claquant des doigts.
Et donc, est-ce que vous pensez que ce qui se passe à la plateforme, c'est ce dialogue, cette ouverture, et puis en même temps, est-ce que ça se retrouve dans toutes vos actions de la fédération?
Oui.
Est-ce que c'est un moyen de faire tomber ces barrières?
Oui, pour le dire très simplement, la fédération elle a ce rôle de représentation et de gestion auprès de l'État, des aumôneries, etc., de porter la parole protestante. Un de ses autres axes très forts, c'est l'unité du protestantisme. Toutes nos actions sont marquées par ce sceau de la diversité protestante, toujours équilibrée, en plus des équilibres classiques, hommes-femmes, personnes issues de l'immigration, etc. C'est systématique et on a cette capacité à faire travailler ensemble des personnes très différentes et à les aider à travailler ensemble. Et c'est très beau parce que c'est des expériences et des choses qu'on voit peu dans la société, des gens avec des idées très différentes qui peuvent s'opposer sur les réseaux, même s'insulter sur les réseaux. Tout d'un coup, paf, ils se retrouvent autour d'une table et ça marche plutôt bien. Et c'est un peu un miracle.
Et donc, vous êtes optimiste pour la suite entre les relations entre les PUDF et les évangéliques parce qu'il y a toujours une méfiance quelque part.
Oui, des deux côtés, j'ai envie de dire.
Des deux côtés.
Des deux côtés, il y a une méfiance. Qu'est-ce qui peut faire lever cette méfiance?
C'est la
rencontre.
Oui.
C'est la rencontre.
Et avant de se quitter, parce qu'il ne nous reste plus que 2 minutes, même pas, qu'est-ce qu'on va se créer entre nous? Parce que bon, on vous a fait venir aujourd'hui, nous, Radio Effet de Plus, on était en appétit avec Yolande de vous rencontrer.
Oui.
J'ai entendu une émission formidable l'autre jour sur le droit des femmes avec une jeune pasteur qui était éblouissante. Voilà.
Ah, et sur les violences sexuelles.
Ah, vraiment, sur les violences sexuelles. Je sais qu'on a la chance d'avoir Stéphane aujourd'hui qui s'occupe de la programmation des émissions de la plateforme protestante. C'était important qu'il vous rencontre aussi, on a choisi cette journée pour ça. Vous la voyez chouette, notre future collaboration, Benjamin Bories?
Ah, je la sens très, 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 très bien, très chouette, puisque vous avez une nouvelle dynamique avec Yolande, donc, qui est l'animatrice de cette émission, qui se dédie un peu aux émissions protestantes. Et vous avez à cœur de redynamiser un petit peu cette station et de rééquilibrer aussi la place du protestantisme, la place de la proximité, de la culture. Et ça, c'est en plein dans l'émission d'une radio protestante associative. Donc moi, je n'ai pas grand-chose à faire, si ce n'est vous aider, vous encourager à continuer.
Eh bien, on va s'arrêter là, sur cette parole d'espoir, d'encouragement qui nous fait bien plaisir. Alors, merci Benjamin, merci à Nathalie.
Merci à toi d'être arrivée dans la radio,
merci
Yolande.
Merci Yolande.
Notre président qui est là. Et merci à Stéphane qui s'occupe de notre technique. Et puis merci à nos auditeurs, sans qui on ne serait pas là. Et on se retrouve la semaine prochaine à la même heure. N'oubliez pas vos réactions à un protestant peut en cacher un autre, @radiofmplus.org. À la semaine prochaine.
Au revoir.
Au revoir.
Amen.
protestant peut en cacher un autre. Une émission préparée et présentée par Yolande Fourchard-Gounel.